les bâtisseurs des hôtels. Les bâtisseurs des hôtels. Genèse 8, 20. Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Genèse 12, 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit : Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel, qui lui était apparu. Genèse 26, versets 23 à 25. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit : Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Genèse 33, versets de 18 à 20. À son retour de Paddan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente, des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 késita. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Elohe Israël, ce qui veut dire « Dieu est le Dieu d'Israël ». En Égypte, Joseph ne pouvait pas bâtir un autel. Les enfants d'Israël étaient en esclavage. Exode 25, versets 1 à 9. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Cet autel est un autel portable. Pourquoi un autel portable? Avant de répondre à cette question, écoutons ce que Dieu le Créateur dit à Adam, le premier homme après sa création. Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. « Cultive-moi et surtout garde-moi !» Adam, le premier homme, n'a pas cultivé ni gardé Dieu, son Créateur, en lui. Adam a rejeté cette ordonnance de son Créateur. Tous les descendants d'Adam ont choisi de cultiver le monde. Ils ont continué à se cacher devant Dieu. Ils ont prôné la séparation avec Dieu, le Créateur. Genèse 3, de 9 à 10. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : Où es-tu ? Il répondit : J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'homme s'est caché devant Dieu. Il a caché sa vie. Il ne voulait pas demeurer dans la présence de Dieu. Pour lui, Dieu ne doit pas savoir ce qui se passe en lui. Ses pensées, ses gestes, sa conduite, son comportement, son attitude, son langage, ce qu'il projette par ses pensées. L'homme ne veut pas que Dieu sache ce que fait l'homme. Alors il va bâtir un autel pour enfermer Dieu, chacun de son côté. L'homme, pour donner quelque chose à Dieu, il quitte sa tente et va dans l'endroit où il a bâti un autel, une maison pour Dieu. Reprenons Genèse 8, 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Pendant ce moment, l'homme hypocrite se présente avec une attitude hypocrite. Après avoir accompli ce rite et tradition, il rentre chez lui et reprend la vie et le mouvement du monde. Alors que la vision de Dieu en créant l'homme, c'était que lui, Dieu, et l'homme deviennent un. Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. » Jean 14, versets de 8 à 11. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Dieu voulait que l'homme soit sa gloire, son empreinte, son image visible, son enfant. Ainsi toute la créature le verra à travers son enfant. Dieu dirige ses créatures à travers son enfant. Le corps de son enfant est devenu son corps, car Dieu est esprit. Dieu est invisible. Dieu donne tout le pouvoir de diriger, de dominer à son enfant pour assurer le pouvoir de Dieu. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ainsi, pour être Dieu, diriger, dominer et assujettir, il faut que l'enfant soit revêtu du pouvoir et de l'autorité de Dieu, c'est-à-dire cultiver Dieu, sa plénitude de la divinité, c'est-à-dire Dieu. Dieu a tout fait pour qu'Adam devienne Dieu. Genèse 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Dieu lui a appris à diriger, assujettir, dominer les animaux. Dieu les a amenés devant Adam pour savoir comment Adam les appellerait. Mais hélas, Adam avait son choix, et son choix, il l'a fait. Maintenant, au lieu de cultiver et garder la vie et le mouvement de Dieu, Adam doit cultiver en lui le mouvement et la vie du monde qu'il a choisi. Nous pouvons voir cela dans Genèse 3, versets 17 à 19. Poursuivons. Donc, la séparation de Dieu avec l'homme était ancrée dans l'homme. Même David et son enfant Salomon n'ont pas échappé à cette doctrine de la séparation avec Dieu. 1 Rois 8, versets 18 à 21, et aussi les versets de 26 à 27. Et l'Éternel dit à David, « Mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. » L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. « Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel. Et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai déposé un lieu pour l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte. » Et dans les versets 26 et 27, « Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie ? » D'après les dires, on entend que c'est Dieu qui a ordonné cela. Mais cette séparation était le socle de l'alliance de Dieu avec les bâtisseurs des autels. Aucun homme de cette alliance avec Abraham n'a rempli la réconciliation avec Dieu. Ils ont tous péché. Là où il y a le péché, il n'y a pas de réconciliation. C'est pour cela Dieu dit dans Jérémie 31, versets 31-32, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Hébreux 8, versets 7 à 9. En effet, si la première alliance avait été son défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » C'est-à-dire, tous ont péché. Ils n'ont pas amené leurs frères à la réconciliation avec Dieu. On a vu ce qui s'est passé avec Moïse. Dieu voulait que Moïse soit cet homme que Dieu a choisi pour amener ses frères à la réconciliation avec Dieu. Mais malheureusement, il a agi comme Adam en rejetant l'offre de Dieu. Exode 24, 12. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Exode 32, versets 15 à 20. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple, qui poussait des cris, et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et, comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël n'ont pas été enseignés pour connaître Dieu, pour le cultiver et pour le garder. Alors Dieu dit, dans Osée 4, 6, « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Les bâtisseurs avaient-ils accompli la vision de Dieu, celle que Dieu avait en créant l'homme? Non, ce n'est pas les bâtisseurs. Donc tous, au lieu de cultiver la réconciliation, ils ont cultivé la séparation entre Dieu et l'homme. Dans l'alliance lévitique, Dieu par son esprit habitait dans un autel. Même Moïse n'avait pas l'esprit de Dieu en lui. L'esprit de Dieu était dans la verge. C'est la verge qui opérait les miracles. Exode 4, verset 17. Prends dans ta main cette verge, avec laquelle tu feras les signes. La génération des bâtisseurs des autels devait prendre fin. Dieu, sa parole est sortie de lui. Personne ne peut arrêter l'accomplissement de cette parole. Job 38, verset 2. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Jérémie 31, verset de 33 à 35. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Hébreux 8, versets 10 à 13. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur !» Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant « Une alliance nouvelle », il a déclaré la première ancienne, « Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. » C'est par la personne d'Abraham que cette vision de Dieu a été révélée. Genèse 17, prenons les versets de 1 à 5. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Abraham, par sa croyance, sa foi et son obéissance, Abraham a cultivé Dieu l'Éternel en lui et devint Abraham. Dieu est avec moi, il habite en moi. Abraham devient Emmanuel. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu ne cache plus rien. Dieu ne cache plus à Abraham ce qu'il avait l'intention de faire. Abraham non plus. Ils sont amis. Abraham devient Abraham le croyant. Genèse 18, versets de 1 à 7. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi ?» Vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, « Vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris, et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui se hâta de l'apprêter. Abraham, c'est lui-même qui a servi à manger à Dieu, son ami. Les trois faisaient un. Abraham n'est pas allé ailleurs pour aller chercher à manger à son ami. Son ami aussi, c'est Dieu. Dieu est venu chez Abraham, mais dans la tente d'Abraham. La tente, c'est le corps d'Abraham. Dieu qui est venu est représenté par les trois personnes. Pour se faire voir, il y avait Christ, esprit, un corps. Les trois étaient en Abraham. L'accomplissement de cette révélation s'est accompli par Jésus-Christ. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Voilà les trois qui habitent en Abraham. Genèse 18, 17. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Donc c'est parce que Dieu habite à Abraham. Ils sont un. Plus de secrets, plus de cacheteries. Ce que pense l'un, c'est aussi ce que pense l'autre. Ils suivent le même chemin, il n'y a pas de contradiction. Abraham a été la révélation, Emmanuel a été l'annonce, et Jésus-Christ a été l'accomplissement de cette révélation. Reprenons Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu n'est plus dans les autels, ni dans les églises et temples de briques construits par les mains d'hommes. Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Donc voici l'accomplissement de cette révélation et annonce. Hébreux 10, versets de 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi », il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Luc 1, versets 31 et versets 34 et 35. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Jésus, l'homme, doit d'abord détruire ses autels, ses églises, ses temples faits de briques, pour bâtir une habitation pour son Dieu et Père, un temple saint. Jean 2, 16. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Marc 11, 17. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Jean 2, versets 19 et verset 21. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. » Mais il parlait du temple de son corps. Voilà la nouvelle alliance par Jésus, son Fils, le nouveau médiateur et souverain sacrificateur. Dans cette alliance, Dieu n'habite plus dans les autels, églises, les temples construits par les hommes pécheurs. Colossiens 2, 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Réécoutons Jean 14, versets de 8 à 11. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Celui qui est baptisé dans les eaux qui coulent et porte le nom de Jésus doit être l'habitation de la plénitude de la divinité, c'est-à-dire Dieu. Acte 2, 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. 1 Pierre 3, 21 et 22. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Le croyant chrétien est donc le corps de Dieu, c'est-à-dire du Christ. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et c'est dans ce temple que le culte doit se dérouler. 1 Corinthiens 6, versets 19-20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amis, frères et sœurs en Christ, le baptême est très important pour faire de toi la résidence de Dieu. Jésus-Christ nous a montré comment nous devons le faire. Ce n'est ni dans une baignoire, ni dans une piscine, ni quelques gouttes sur la tête. Tous ces baptêmes ne sont pas légaux selon le modèle établi par le Seigneur Jésus. Mais voici le modèle établi par le Seigneur Jésus-Christ. Marc 1, versets 9, 10 et 11. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Par ce modèle de baptême, Dieu te proclame devant le ciel et la terre. Tu es son Fils et tu es représenté par ton frère Jésus-Christ, ressuscité à la droite de Dieu ton Père. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Cette résurrection par les œuvres de la foi, tolérer, supporter, maîtrise de soi, la patience, vivre la vérité, la justice, la paix, l'amour de Dieu, tout cela incarne la vie de Jésus-Christ, qui est la vie et le mouvement de Dieu son Père et notre Père. Par cette alliance, nous sommes enfants d'Abraham par Jésus-Christ. Galates 3, versets 24 à 29. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Conclusion. Les bâtisseurs des autels, d'abord, ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils sont ignorants. Ils ne peuvent pas conduire leurs frères vers la réconciliation véritable avec Dieu le Créateur. Ils ne peuvent pas faire de leurs frères les enfants de Dieu. Dieu ne peut pas les adopter, car la cause, c'est qu'ils ne trouvent pas celui qui va les adopter pour lui. C'est Jésus, le seul homme, qui a accepté cette mission et qui a accompli le sacrifice, c'est-à-dire qu'il a payé la rançon, car il a été le seul à porter le sacerdoce. Hébreux 7, 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Hébreux 8, 6. Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Frères et sœurs en Christ, avant de terminer cet enseignement, nous allons prendre les versets de 20 à 24 du chapitre 4 dans l'évangile de Jean, et aussi les versets de 14 à 18 du chapitre 6 de la seconde épître de Paul aux Corinthiens. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. » J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur vous garde et vous éclaire.